France Inter.
Aujourd'hui, dans Affaires sensibles, le docteur Petiot. Il y a eu Landru pendant la Première Guerre mondiale, il y a Petiot pendant la Seconde. Dans Paris occupé par les Allemands, ce médecin généraliste fait croire à des Juifs désireux de fuir la Gestapo, mais aussi à des malfrats en tout genre, qu'il est en lien avec un réseau de passeurs et qu'il peut les exfiltrer en Amérique du Sud. Mais au bout du chemin, il n'y a qu'un cabinet de torture situé dans les beaux quartiers de Paris. Petiot dévalise, puis assassine. On ne reverra jamais ses victimes. Pas de corps, pas de crime. Difficile dans ces conditions de savoir précisément combien de personnes ont fait ce voyage sans retour avec le docteur Petiot. 27 officiellement. Lui en revendique 63. Mais quel était donc le mobile de ces crimes? Les disparitions, les violences arbitraires qui ont frappé Paris tombé sous le joug nazi ont-elles précipité le passage à l'acte d'un médecin au passé psychiatrique et judiciaire déjà chargé? L'affaire du docteur Petiot reste aujourd'hui encore assez énigmatique. Notre invité aujourd'hui, Romain Slocombe, romancier spécialiste de la période de l'occupation, auteur de Sadorski chez le docteur Satan, livre à paraître le 26 septembre aux éditions Robert Laffont. Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire, Héloïse Rambert, rédaction en chef Franck Cognard, chargée de programme Rebecca Donnante, réalisation Hélène Bizio.
Fabrice Drouel. Affaires sensibles sur France Inter.
« 11 mars 1944, Paris sous l'occupation, rue Le Sueur, 16e arrondissement. Voici Madame Marsay. Cette dame habite au 22 de cette rue et Madame n'en peut plus. Depuis 3 jours, une épaisse fumée noire s'échappe de la cheminée d'un hôtel particulier. Son voisin d'en face, au 21, l'odeur est abominable. Alors elle convainc son mari d'aller sonner. Personne. » On appelle la police, qui se renseigne auprès du concierge. Qui habite ici? C'est le docteur Petiot, répond le concierge. Marcel Petiot, un médecin. Il a racheté cet hôtel particulier il y a 3 ans. Bien. Mais où peut-on le trouver, ce Petiot? Au 66 rue Comartin, dans le 9e. Son numéro de téléphone, Pigalle 7711. La police appelle. Allô, c'est le docteur Petiot? Oui, bonjour messieurs, quel est le problème? Le problème, c'est visiblement quelque chose brûle chez vous. Ah bon? Vous êtes entré dans la maison? Demande Petiot, très calme. Ne touchez à rien, j'arrive. Je suis là dans un quart d'heure. Bon. Mais le quart d'heure passe, pas de Petiot. Pendant ce temps, les curieux s'agglutinent dans la rue. On fait intervenir les pompiers. Ce qu'ils découvrent est relaté en 1978 dans l'émission d'Antenne 2 En Savoir Plus.
Alerte, les pompiers arrivent, il n'y a personne, ils pénètrent dans l'immeuble, cela vient de la cave, et là, un spectacle hallucinant, digne du grand guignol, les attend. Gisant ça et là, des cadavres débités, et dans un calorifère, des fragments humains qui se consument.
Une petite pièce. Deux chaudières. Le brasier de la plus grande, dont la porte est entr'ouverte, éclaire faiblement la pièce. Sur le sol, il y a un amoncellement de morceaux de corps humain. Des cuisses, des troncs, des crânes, même un corps entier découpé dans le sens de la longueur. Un bras pend de l'intérieur de la chaudière. Il y a aussi une fosse avec des ossements par la chaux calcinée. Quand les pompiers ressortent, c'est comme s'ils revenaient de l'enfer, pris de quinte de tout, livides. Le plus jeune d'entre eux, parvenu au niveau du portail, vomit. Et soudain, un autre pompier lance au policier. « Il y a du travail pour vous. » En effet, il y a là un homme qui s'avance à bicyclette dans les 45-50 ans, brun, la peau mate, le regard vif pénétré même. Il va pour franchir la grille. « Je suis le frère du propriétaire, » argue-t-il. Non seulement on le laisse passer, mais on le laisse même descendre à la cave avec son mouchoir sur le nez. En remontant, il prend l'un des agents à partie et lui résume la situation en un mot sur le ton de la confidence. Résistance. La scène est dépeinte dans le film « Docteur Petiot » de Christian Chalonge, sorti en 90 avec Michel Serrault dans le rôle-titre.
Vous êtes un bon français ?
Oui, je suis français.
Vous êtes au cœur d'une opération clandestine. Tous ces gens qui brûlent là-dessous sont des schleus ou des collabos, des traîtres à la patrie, exécutés, vous comprenez ?
Et par la résistance ?
Oui, si la PJ veut venir là-dedans, des dizaines de patriotes qui risquent leur peau, vous comprenez ça aussi, n'est-ce pas ? Alors, laissez-moi faire disparaître tous les dossiers.
Bon, on n'a rien vu, d'accord. Pas de problème avec mon collègue, non. Pas de chance.
Et oui, si les cadavres sont ceux d'ennemis de la France libre, circulez. Et voilà que le bonhomme enfourche son vélo et repart le plus tranquillement du monde. Or, ce n'était pas le frère du docteur Petiot, mais Petiot en personne. Et quand le commissaire de la PJ arrive sur place, notre homme est déjà loin. C'est le commissaire Massu qui est chargé des enquêtes. Le flic le plus célèbre de France. 33 ans de métier au 36 quai des Orfèvres. 3257 arrestations au compteur. C'est lui qui inspirera Georges Simenon pour son mythique commissaire Maigret. Autant dire qu'il ne félicite pas les fins limiers qui ont laissé partir le soi-disant frère sans l'inquiéter, bien sûr. Alors Massu fait le tour du propriétaire, descend dans l'horrible fosse et fait prendre des photos de la scène de crime. Ses constatations terminées, vers minuit, il s'apprête à se rendre à l'adresse connue de Petiot, rue Comartin. Il raconte à la radio en 1956 dans l'émission « Soyez témoin ».
Cycliste de la police municipale a apporté un télégramme à son chef de la police municipale dans la cour de la rue Losmer avec ordre des autorités allemandes, arrêter le docteur Petiot, fou dangereux. Alors au lieu d'aller chez Petiot, j'y suis pas allé. J'ai dit à un inspecteur qui se trouvait là, qui avait été alerté comme moi, qui était de permanence, vous irez demain matin chez le docteur Petiot au Comartin et vous l'inviterez à se présenter à mon cabinet, vous l'accompagnerez. Le lendemain matin, l'inspecteur m'a dit à 7h du matin, patron, il est parti, la porte est ouverte, il n'y a plus personne.
Si les Allemands le tiennent pour un fou dangereux, c'est qu'ils ont déjà croisé sa route et qu'ils savent à peu à qui ils ont affaire. En attendant, Petiot s'est volatilisé. Mais alors, qui est ce Marcel Petiot ? Il naît en 1897 à Auxerre d'un père employé des postes et d'une mère au foyer à la santé mentale fragile. L'enfance du petit Marcel est malheureuse, mouvementée, et il manifeste très jeune une tendance à la cruauté. On raconte en effet qu'il mordait au sang sa nourrice et ébouillantait les chats. Et il se distingue aussi par les brimades qu'il fait subir à ses camarades. Sa famille, ses professeurs le trouvent solitaire, sombre, irascible. Il est intelligent, mais il est sans cesse renvoyé de l'école. En 1914, à l'âge de 17 ans, il commet son premier larcin. Il force plusieurs boîtes aux lettres et dérobe près de 200 lettres et cartes postales. Bien que mineur, il est inculpé et le juge demande une expertise psychiatrique. En voici les conclusions déjà un peu préoccupantes.
Son raisonnement moral semble limité. Il paraît n'avoir sur le face et le néface, ce qui est permis et ce qui ne l'est pas, que des données restreintes. Son jugement semble faussé. Aujourd'hui encore, il se refuse à connaître la gravité du délit commis par lui. Dans nos différentes interrogations, il ne paraît pas vraiment ému et ne verse des larmes vraiment sincères que quand il évoque la privation de sympathie et d'amitié familiale dont il semble avoir réellement souffert. Petiot Marcel est un anormal. On relève chez lui des tares héréditaires et personnelles qui limitent dans une très large mesure la responsabilité de ses actes.
Anormal, Marcel Petiot. Il n'en a pas fini avec les psychiatres. En 1916, la France bascule dans la Grande Guerre. Le jeune homme s'engage. L'année suivante, il est blessé au pied par un éclat de grenade. Or, ce n'est pas la pire des blessures. Mais il végète tout de même des mois dans un hôpital militaire, auprès de compagnons d'infortune bien plus amochés que lui. Et c'est là qu'il entame un épisode psychiatrique grave. Il est interné au centre militaire psy de Fleury-les-Aubrais, près d'Orléans. Une enquête à ce propos en dit long sur le personnage. Il n'hésitera pas à poser la mention « Docteur Petiot, ancien interne à Fleury-les-Aubrais ». Ah oui, interne, interné, quelle différence ? En 1920, la commission des réformes, qui n'est pas connue pour être spécialement accommodante, le déclare sujet à la psychose mélancolique dépressive, invalide à 100% et inapte à tout travail physique et intellectuel. Pourtant, revenu à la vie civile, il entame des études de médecine express. Après la guerre, les anciens combattants bénéficient d'un accès facilité et accéléré aux études supérieures. Et à aucun moment, il ne voit ses ambitions professionnelles entravées par ses inquiétants bulletins de santé militaire, non. En 1921, la faculté de médecine de Paris lui accorde même sa thèse avec mention « très bien ». Et le voilà donc médecin à 22 ans. Sitôt diplômé, il s'installe à Villeneuve-sur-Yonne. La patientèle est au rendez-vous. Il se taille même une réputation de docteur des pauvres. On le trouve moderne, dynamique, disponible jour et nuit, et il consulte gratuitement les plus modestes. Il est tellement apprécié d'ailleurs qu'il est élu conseiller municipal d'abord, puis maire en 1926.
Mais à Villeneuve-sur-Yonne, où il fut docteur, où il fut maire, son souvenir demeure. On se souvient qu'il fut dans cette maison le docteur dont beaucoup ont connu la salle d'attente et le cabinet. On n'a pas oublié que sa renommée le conduisit à la mairie où certains regrettent son urbanité. Villeneuve est le passé de Petiot, un passé dont on ne sait pas tout d'ailleurs, car les petites villes ont leurs secrets.
Il subsiste en effet bien des mystères sur les années villeneuviennes du docteur Petiot. Sa personnalité hors norme devient très vite impossible à ignorer. Il se livre à des larcins, des escroqueries ahurissantes, presque comiques, surtout pour un notable comme lui. La croix du cimetière et des bidons d'huile de moteur disparaissent. Un dernier coup tordu le mène devant un tribunal correctionnel qui le condamne à 3 mois de prison avec sursis. Plus inquiétant encore, son passage dans l'Yonne est marqué par 2 décès inexpliqués. Sa jeune bonne, entrée à son service avant son mariage avec sa femme Georgette, est portée disparue. Et il se murmure que Petiot aurait pu la tuer. Et puis il y a Madame Debove. Elle est décédée dans l'incendie criminel de sa laiterie et une grosse somme d'argent lui a été dérobée. Et on aurait vu Petiot rôder dans les parages. Mais il n'y a aucune preuve et ses affaires ne seront jamais éclaircies. Dans ce climat trouble, le passé psychiatrique du docteur Petiot ressurgit. Et la ville se divise entre petiotistes et anti-petiotistes. Mais il parvient pour un temps à préserver son aura. René Nézondé, ancien greffier à Villeneuve-sur-Yonne, a bien connu Petiot. Toujours dans l'émission de radio Soyez témoin, il témoigne donc, en 1960, de la très bonne opinion qu'avait de lui cet homme, comme tant d'autres d'ailleurs.
C'était un très très bon camarade, très serviable, et toujours très bavard, n'est-ce pas, et qui intriguait toujours dans ses conversations, et on avait beaucoup de plaisir à converser avec lui.
Toujours le mot pour rire.
Oh, toujours.
Il était évidemment très populaire,
très, parce qu'il mourir de rire.
Très populaire, ça, il n'y a pas d'erreur. Mais on n'aurait jamais pu croire que par la suite, évidemment, il aurait la vedette de crimes aussi monstrueux.
Mais pourtant, du temps qu'il était maire, il avait déjà eu des histoires dans ce
temps. Oui, mais vous savez, quand on se mêle de politique et qu'on est maire, les ragots dans les petites campagnes surtout, n'est-ce pas, sont plus ou moins bien fondés.
De quoi est-ce qu'on l'accusait à ce moment-là?
De quelques assassinats, si je
crois. On l'accusait de vol de bidons d'huile, de vol de courant électrique, enfin d'un tas de choses, n'est-ce pas, plus ou moins vraies.
Et de disparition de certaines personnes qu'il accusait.
Oui, on l'avait accusé d'avoir tué sa bonne, mais enfin, les preuves.
À ce moment-là, vous ne croyiez pas un mot des ragots qui se répandaient sur son compte?
Non, je ne le croyais pas. Il était très serviable, c'est le moins qu'on puisse dire.
Mais au début des années 30, Petiot finit par tomber. Il est d'abord démis de ses fonctions de maire suite à une enquête du Trésor public qui met en lumière une gestion catastrophique de la commune. Alors ça commence à faire beaucoup. Mais ça ne l'empêche pas, et ça n'empêche pas les Villeneuviens de l'élire 3 mois après conseiller général. Au bout du compte, c'est une énième affaire de vol qui a raison de sa carrière politique. Cette fois, il est accusé d'avoir détourné le courant électrique pour son usage personnel. Sa vie à Villeneuve-sur-Yonne devient alors impossible. Il est temps d'aller respirer un autre air. Eh bien, ce sera dans une ville à la hauteur de ses ambitions, Paris. En 1933, Petiot monte donc à la capitale avec femme et enfants. Il s'installe au 66 rue Comartin. Pour se faire connaître en tant que médecin, il bourre les boîtes aux lettres du quartier d'un prospectus publicitaire délirant. C'est bien simple, c'est un mage. Oui, venez chez le docteur Petiot, équipé de machines sensationnelles au nom compliqué, il guérit tout. Eh bien, ça marche, figurez-vous. La clientèle afflue. En 1936, de nouveau il déraille. Entendu après le vol d'un livre, il apparaît suffisamment déséquilibré pour faire l'objet d'un nouvel examen psychiatrique, puis d'un internement d'office. Et pour la première fois, un psychiatre s'intéresse vraiment à l'ensemble des antécédents judiciaires et médicaux de Petiot. L'expert de l'hôpital Sainte-Anne a l'intuition d'avoir affaire à un personnage dépourvu de scrupules et de morale dont on pourrait bien entendre parler de nouveau. Mais personne n'envisage de lui enlever son permis d'exercer la médecine. Alors les affaires reprennent. En vérité, le vrai fonds de commerce de Petiot, c'est la drogue. Et c'est connu dans tout Paris. Petiot fait des ordonnances de complaisance aux toxicomanes. Alors entre ses activités suspectes et son passif, et son passé douteux, il se confond les deux, la police le garde à l'œil avant éventuellement de le garder à vue. Mais le bruit des bottes se rapproche. Quand Paris passe sous le joug allemand, Petiot se sent pousser des ailes. Parce qu'il se dit, la police a autre chose à faire que de surveiller le médecin véreux de la rue Comartin. C'est son moment.
Nous sommes maîtres de la terre, nous nous croyons des presque dieux. Et pan, le nez dans la poussière, qu'est-ce que nous sommes, des pouilleux. Et là-haut, les oiseaux qui nous voient tout petits, si petits, tournent sur nous et crient au fou, au fou. Nous nageons tous dans la bêtise et l'on invente des drapeaux. On met des couleurs aux chemises, sous la chemise, il y a la peau. Et là-haut, les oiseaux qui nous voient tout petits, si petits, tournent sur nous et crient au fou, au fou. Écoutez le monde en folie, vive la mort, vive la faim. Par un cri, vive la vie, nous sommes tous des assassins. Et là-haut, les oiseaux qui nous voient tout petits, si petits, tourne sur nous et crie au fou, au fou. C'est toute la terre qui gronde, sonne ses ondes pour les volcans. On va faire ressauter le monde, cramponnez-vous, tout fout le camp. Et là-haut, les corbeaux qui nous voient tout petits, si petits, tournent comme des fous. Et crie à nous. Et pourtant, les filles sont belles, il y a du beau soleil dehors. Pourquoi se creuser la cervelle? Au diable tout, vivons d'abord. Car là-haut, les oiseaux qui nous voient tout petits, si petits, crient, les hommes sont fous. Et se foutent de nous.
Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, le docteur Petiot.
Affaires Sensibles. Fabrice Drouel.
À Paris comme à Villeneuve-sur-Yonne, le docteur Petiot passe aux yeux de beaucoup pour un personnage recommandable, voire agréable. Monsieur Auguste, par exemple, patron d'un café de la rue Comartin où le médecin exerce, le décrit au micro de Jacques Pradel sur France Culture comme un docteur au-dessus de tout soupçon, doublé d'un aimable client.
Il ressemblait à quoi physiquement ?
Eh bien, vous savez, il était pas d'aspect formidable, il était... Il avait un physique un peu anguleux. Un peu anguleux, oui, mais... Il était doux à causer. Des fois, il se mettait au comptoir, il prenait un verre, on causait comme ça. J'étais très surpris après, ben, quand on a appris toute l'histoire. Rien, cet homme-là laissait prévoir qu'il aurait pu faire ça. Moi-même, parce qu'il était... J'étais calme. Il était calme, hein. Oh là là.
Mais l'histoire maintenant va prendre un autre ton. Voici Joachim Gushinov. C'est un autre voisin du docteur Petiot. Il habite au 69, il est fourreur de profession. Il vit dans la peur. Et pour cause. Ce monsieur est juif et voit ses conditions de vie se dégrader au rythme des ordonnances antisémites édictées par l'occupant et, bien sûr, le régime de Vichy. Depuis 1940, la loi l'oblige à mettre l'écriteau « entreprise juive » sur sa vitrine. L'heure est à la persécution et aux rafles. Gushinov cherche un moyen de quitter la France. Fin 1941, il s'ouvre de son projet au docteur Petiot. Il le consulte. Il ne connaîtra pas un moyen de se sauver. Alors Petiot l'écoute, hésite. Et puis, si en effet il peut l'exfiltrer en Argentine contre une enveloppe de 25 000 francs, ça ne se refuse pas. Donc rendez-vous est pris. Non pas à l'adresse habituelle de Petiot, mais au 21 rue Le Sueur, où le médecin vient d'acheter un hôtel particulier. Ce sera plus discret. Alors il donne ses instructions. Que le candidat à l'exil vienne avec ce qu'il a de plus précieux, histoire de survivre une fois qu'il sera en Amérique du Sud. Quand il met les pieds dans le 16e arrondissement, Joachim Gushinov se croit sauvé. Mais l'adresse du docteur Petiot n'est pas la gare de départ tant espérée, non, c'est un terminus. La femme de Gushinov, qui devait le rejoindre en Argentine, ne reverra jamais son mari. Est-ce que Gushinov a involontairement inspiré à Petiot son projet criminel? En tout cas, le fourreur de la rue Comartin est la première victime qui lui est attribuée. Mais il faut croire que Petiot y prend goût. Au fil des mois, la liste des juifs candidats à l'exil qui disparaissent après leur visite rue Le Sueur s'allonge. Tous s'y rendent avec leurs biens, leurs économies, persuadés qu'ils touchent du doigt la promesse d'une vie meilleure. Le bouche à oreille a fait son œuvre. En 1956, Irion Caran, juive d'origine roumaine, raconte comment elle approche celui qui se présente comme son sauveur.
Un médecin de mes amis est venu un jour me dire qu'il avait entendu qu'un médecin faisait partir les gens à l'étranger pour se sauver des Allemands. Donc, j'ai demandé à faire la connaissance de ce médecin. Donc, le docteur de mes amis m'a présenté un jeune homme qui connaissait ce médecin et il m'a amené dans un café rue de Tronchet pour me présenter un homme qui s'avérait être après le maquilleur. De là, nous sommes allés chez le coiffeur rue de Mathurin. On m'a donc présenté le docteur Eugène. Je ne connaissais pas d'autres noms. Et il m'a posé plusieurs questions. Je lui ai dit que je voulais partir pour différentes raisons, que j'avais peur que les Allemands qui m'ont déjà cherché deux fois. Et alors il m'a demandé si j'étais pressée pour partir. J'ai dit oui, beaucoup. Très pressée.
C'est un véritable réseau que décrit Ariane Kahn. Très vite, Petiot commence à voir les choses en grand. Il dégote deux rabatteurs qu'il met au service de la filière du docteur Eugène. Oui, docteur Eugène, c'est le prénom qu'il s'est trouvé pour ses activités criminelles. Quant à ses deux sbires, il s'appelle Charles Fourier, coiffeur rue des Mathurins, et Edmond Pintard, maquilleur de cinéma et ancien chanteur de music hall. Deux piliers de bar qui connaissent énormément de monde et dans tous les milieux. Le pari de l'occupation grouille de personnes de ce genre et d'autres qui donneraient tout pour disparaître. La filière du docteur Eugène ne s'adresse pas qu'aux juifs aux abois. Le coiffeur et le maquilleur passent la capitale au peigne fin pour trouver toutes sortes de bons clients pour le médecin, pourvu qu'il soit riche. Ainsi, le 21 de la rue Le Sueur devient également la dernière adresse de malfrats désireux de se faire oublier de la Gestapo ou de la police française, c'est selon. Ou encore de prostituées et de leurs proxénètes. Tout porte à croire que Petiot liquide aussi plusieurs toxicomanes sur le point de le faire plonger pour trafic de stupéfiants. Avec ses victimes, Marcel Petiot a une méthode bien rodée. Une fois l'accord conclu, il se retrouve rue Le Sueur le soir. Les visiteurs peuvent s'étonner du bric-à-brac qu'ils trouvent dans l'entrée de la belle maison bourgeoise. Oh, ne faites pas attention, leur dit Petiot. Tout cela n'est que transitoire. Oui, parce qu'ils pensent à monter une clinique, bientôt. Et il les invite à rejoindre le cabinet de consultation. Le départ est bien pour ce soir. Les passeurs ne vont pas tarder à arriver. Mais avant, il doit les vacciner, oui. Parce que sans carnet de vaccination, un jour, impossible d'entrer en Amérique du Sud. Mais dans la seringue, il y a un produit qui met les victimes dans un état second. Toujours en 1956, le commissaire Massu donne une description de ce sinistre cabinet.
Il avait un petit cabinet de réception, si vous voulez, avec fauteuil, très gentil, très propre. Et après les avoir consultés, il devait leur dire « passez à côté dans la salle d'attente ». Dans la pièce d'à côté, il y avait une grande porte à double battant avec un bouton. On aurait cru que c'était, on allait pénétrer dans une salle. En réalité, c'était une double porte collée sur le mur. Il n'y avait rien derrière. Et il y avait un bouton qui ne sonnait pas, bien entendu. Alors ils étaient emmurés là-dedans, ils refermaient sa porte. Car la porte de son cabinet, elle était capitonnée. Il y avait une seconde porte. N'est-ce pas? Il y avait deux portes, on ne pouvait pas entendre ce qui se passait.
Les victimes sont effectivement conduites dans un minuscule débarras de forme triangulaire, sans fenêtre, au mur insonorisé et dont la porte ne s'ouvre pas de l'intérieur. Mais que subissent-elles une fois emmurées? Peut-être succombent-elles à leur injection, à moins que Petiot ne les gaze. Oui, dans un parallèle involontaire et terrifiant avec les méthodes nazies. Car un trou du diamètre d'un tuyau sera retrouvé à côté de la serrure. Toujours est-il que Petiot assiste à leur agonie par un Judas. Est-ce qu'il y trouve un plaisir sadique? Ou est-ce qu'il se comporte en inspecteur des travaux finis, sans affect? Allez savoir. En tout cas, les corps finissent à la cave dans la chaux. Mais l'existence et l'efficacité de la filière Eugène finit par remonter aux oreilles de la Gestapo. Au printemps 43, le médecin est arrêté. Pendant 7 mois, il subit les pires tortures avec un stoïcisme qui impressionne. Il n'avoue rien. Et pour cause, il n'y a rien à avouer. Ni réseau de résistance, ni filière d'exfiltration. En janvier 44, il est libéré et il reprend ses activités. Et cette fois avec plus d'empressement. Pour faire disparaître les cadavres, il entreprend de les brûler dans sa chaudière. On connaît la suite. Au printemps 44, l'insupportable odeur qui s'échappe de ses cheminées donne l'alerte. Le charnier est découvert. Petiot, lui, prend la tangente. Le commissaire Massu se lance donc sur ses traces, pendant que la presse fait ses choux gras de cette affaire et de celui qui est désormais surnommé Docteur Satan. Massu se rend dans la région d'origine de Petiot, dans l'Yonne. À Auxerre, il arrête Georgette, sa femme, et Maurice, son frère, qui, on va le découvrir, a fait livrer des kilos de choux chez Petiot, à Paris. Et puis, chez un ami de la famille, le commissaire fait une découverte intéressante. 49 valises ayant appartenu aux victimes. Dans ces malles, des vies entières. 90 robes, 28 complets d'hommes, 57 paires de chaussettes, 104 chemises, 18 manteaux, entre autres. D'autres effets personnels sont également retrouvés dans la cour de la rue Le Soir. De quoi donner une idée aux enquêteurs du nombre de victimes. Mais aucune trace d'argent et d'objets de valeur. Le docteur Petiot s'est certainement fait la belle avec le magot. Voilà. Les semaines passent, ainsi que les mois, et le médecin est toujours introuvable. Que fait la police ? La hiérarchie du commissaire Massu s'impatiente, comme il le raconte, non sans humour.
Il y avait des radiesthésistes, alors on le disait mort dans le nord, on le disait vivant dans le sud, etc. J'ai été convoqué à l'inspection générale des services qui m'a demandé, mais enfin vous, Massu, comment ça se fait pour votre patio, etc. Je dis, moi je ne l'ai pas, qu'est-ce que vous dites ? Je ne l'ai pas. J'ai une affaire, au lieu de critiquer le personnel, il faut le féliciter. J'ai une affaire, vous avez tout là-dedans. J'ai la femme, le frère qui a amené la chaux. Il y a tous les intermédiaires qui ont été arrêtés. Alors j'ai attendu, j'ai dit, mais je ne l'ai pas, Petiot, je ne l'ai pas.
En réalité, Petiot se cache sous une fausse identité. Le voilà maintenant dans le costume de résistant. Ben voyons, le costume seulement. Sous le pseudonyme de Capitaine Valéry, il se fond dans les rangs des insurgés de Paris. Voilà donc Petiot, désormais barbu, sur les barricades, brassard tricolore au bras. Après la libération de Paris, il rejoint les rangs des FFI, Force Française de l'Intérieur, et il est affecté à la caserne militaire de Reuilly, où il exerce la fonction de commissaire instructeur chargé de l'épuration, et bien sûr, avec beaucoup de zèle. Bref, tout va bien pour lui. D'ailleurs, il aurait pu garder cette planque longtemps, si son impulsivité ne lui avait pas joué des tours. Le 19 septembre 1944, en effet, paraît dans les pages du journal Résistance un article au titre volontairement provocateur « Petiot, soldat du Reich ». Dans son papier, le journaliste Jacques Yonnet se fait l'écho de rumeurs persistantes. Le docteur Petiot aurait fait preuve de complaisance envers les Allemands. Dans l'émission de radio « Un homme à liberté » en 1963, le journaliste raconte les faits inattendus de cet article.
Et cet imbécile de Petiot prend la mouche, il me fait parvenir une lettre ignorant mes doubles fonctions de journaliste et de membre de la sécurité. Tout serait trop long à raconter ici, grâce à la lettre, où il disait avoir tué tant de gens, surtout des juifs, seulement pour le compte de la résistance, ce qui était tout de même un peu fort. Ça l'a perdu.
Petiot furibard, comment ose-t-on l'attaquer ainsi, lui qui a toujours servi la résistance et tué seulement des juifs collabos? La dite rédaction croit d'abord un canular. Mais non, l'analyse graphologique est formelle, c'est bien Petiot qui a écrit la lettre au journal. Alors bon, on va de combat à la PJ. Le journal n'est tiré qu'à peu d'exemplaires et il n'est diffusé que dans Paris et ses environs. Donc, bah ça veut dire que Petiot ne va pas être bien loin. Dans sa lettre, il se vante également de son rôle beaucoup plus actif, dit-il, dans la résistance. Une enquête est donc menée au sein des FFI. Les écritures des nouvelles recrues à des postes à responsabilité sont systématiquement comparées à celles de Petiot. Et là, pas de doute, le capitaine Valéry, c'est Petiot. Le 31 octobre 1944, 7 mois après la découverte du charnier, il est appréhendé à la sortie du métro Saint-Mandé. Et dans ses poches, on trouve un revolver, de l'argent et toute une collection de pièces d'identité. Le 18 mars 1946 s'ouvre le procès du docteur Satan. C'est le premier à être aussi médiatisé en France. Dans son édition du 17 avril 1946, le Figaro le désigne comme l'un des plus grands procès de l'histoire criminelle, pas moins. Et certains reporters, à l'époque, qualifient le prévenu de plus grand criminel des temps modernes.
Il faut croire que le crime garde une fascination. Dans le monde entier, le docteur Petiot fait aujourd'hui autant de bruit que naguère le fameux Landru. Et qu'était Landru à côté de Petiot qui, selon l'accusation, compte 27 victimes et selon sa propre comptabilité, 63. Aux assises, devant le décor des 72 valises volées aux morts, l'avocat général, M. Dupin, l'accusé et son défenseur, Maître Floriot, se dispute la tête de celui qui, tour à tour, violent, ironique, amer, plaisant ou méprisant, joue avec fureur son rôle de vedette du crime. Pour donner à l'affaire son vrai jour, la cour s'est déplacée rue Le Sueur jusqu'à la maison du crime qui, pour la première fois depuis 2 ans, a ouvert ses portes. Petiot, menottes aux mains, y refait le chemin que firent naguère ses victimes lorsque, cherchant une sortie hors de France, elles ne trouvèrent que l'entrée d'une tombe. Petiot n'est pas gêné. Ces criminels de classe sont de bonne compagnie. Petiot est un monstre.
Petiot revendique 63 victimes. Alors, faire profil bas? Pas du tout. Pas son genre. Au contraire, dès le premier jour, il fait de la salle d'audience son théâtre. Les yeux profonds et vifs, largement cernés de noir, sa mèche brune sur son front haut et son air bravache sont capturés par les photographes. Et durant les 15 jours de ce procès, ce sont mille et une facettes de sa personnalité hors norme qui s'exposent devant les jurés. Il peut les charmer, les faire rire, plein d'esprit, facétieux, tantôt debout pour se défendre avec panache. Il peut sombrer dans une sorte de léthargie indifférente ensuite, affalé sur le banc des accusés, voire s'endormir, comme si les débats ne le concernaient pas. Quant au mobile de ses crimes, sa ligne de défense ne bouge pas d'un iota. Il n'a tué pour la France que des nazis ou des collabos. « Je ne suis pas un assassin, je suis un exécuteur », explique-t-il à la cour. Son avocat, maître René Floriot, ténor du barreau de l'époque, ne plaide pas la folie. Non, il suit son client dans sa version des faits. Le bon docteur a assassiné, certes, mais pour la bonne cause. Et tant pis sur le pyjama du petit René Kneller, disparu avec ses parents, retrouvé dans l'une des valises, mais à mal son argumentaire. À l'issue de 7 heures de plaidoirie de maître Floriot, le verdict tombe. Sans surprise, Marcel Petiot est condamné à mort. Le 25 mai 1946, le jour de son exécution, l'avocat général vient réveiller le condamné à l'aube, comme le sinistre cérémonial le prévoit. Eh bien, il se fait vertement recevoir par Petiot qui dormait du sommeil du juste et qui lui dit « Tu m'emmerdes ». En 1960, le directeur de la prison de la Santé se remémore l'attitude des condamnés marchant vers la guillotine. Et à l'en croire, le docteur Petiot affiche très vite bonne humeur et décontraction.
Est-ce qu'il y en a un qui vous a particulièrement impressionné ?
Oui, je me souviens d'un médecin tristement célèbre. Il avait des yeux qui jetaient le feu. Il impressionnait tout le monde et personne n'aimait à bavarder avec lui. Il avait peur de mourir. Et pourtant, le jour de son exécution, il souriait à tout le monde, à toutes les personnes présentes, alors qu'on le conduisait à l'échafaud.
Vous en avez gardé le souvenir ?
J'en ai gardé un souvenir. Il était aussi à l'aise que dans un salon.
Avez-vous une dernière déclaration à faire, Petiot ? Lui demande-t-on pendant qu'on coupe son col de chemise. Oui, je suis un voyageur qui emporte ses bagages. Dans ses bagages, le docteur Petiot emporte surtout beaucoup de questions sans réponse et de mystères irrésolus. Vous écoutez Affaires Sensibles, aujourd'hui le docteur Petiot dont nous parlons avec notre invité Romain Slocombe. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes auteur de romans noirs, spécialiste de la période de l'occupation. Alors j'ai entre les mains un livre que je n'ai pas eu le temps de lire, puisqu'il va sortir le 26 septembre, j'ai eu livraison ce matin. C'est votre dernier livre, Romain Slocombe, il s'appelle Sadorski chez les docteurs Satan. Et puis alors, Robert Laffont, qui est un éditeur habile, a mis un bandeau qui dit... sur le livre, l'affaire Petiot comme vous ne l'avez jamais vue. Alors comment l'avez-vous vue, vous, cette affaire Petiot qu'on n'a pas vue comme ça, nous ?
Eh bien, j'ai lu pratiquement tous les bouquins qui ont été écrits sur lui, parce que régulièrement, il y a eu des livres sur lui, dont un tout récemment, vous aviez fait venir Claude Quettel ici, avec son effrayant docteur Petiot. Moi-même, j'ai un personnage récurrent qui s'appelle l'inspecteur Sadorski.
Sadorski, oui.
Donc là, on en est au 7e volume, et qui est une sorte d'anti-héros, parce que c'est un personnage très antipathique. Et c'est à travers ses yeux, finalement, que je fais revisiter au lecteur toute cette période de l'occupation. Et puis à un moment donné, forcément, il allait croiser le chemin du docteur Petiot, et sur lequel j'avais beaucoup de donc ces livres m'arrivaient petit à petit chez des bouquinistes, etc. Je me disais, tiens, c'est bizarre, tiens, encore un livre sur Petiot, allez, je l'achète, peut-être que c'est un signe du destin qu'un jour j'écrirai sur Petiot. Et effectivement, on arrive à une période qui est celle de l'épuration, et c'est, comme c'était très très bien raconté par vous tout à l'heure, le moment où Petiot va être arrêté, alors qu'il est lui-même épurateur. Et j'ai imaginé pour mon roman que Sadorski, qui dans un épisode précédent a été arrêté par les Allemands, lui aussi soupçonné d'être un résistant alors qu'il ne l'est pas du tout, et qu'il aurait partagé pendant quelques semaines la cellule de Petiot à Fresnes, et donc il le connaît et il est capable de l'identifier physiquement.
Dis donc, ça montre aussi que Petiot lui-même est un excellent personnage de roman, même si lui s'inscrit dans la réalité. Il y a peut-être quelque chose de naturel de le mettre dans un roman, finalement.
Oui, parce que c'est un personnage formidable. Enfin, il a fait un triomphe à son procès. C'est quand même un personnage totalement hors norme, vraiment. Tellement que je me sentais quand même obligé de lui être fidèle, c'est-à-dire de montrer pas n'importe qui, pas un espion nazi, pas un personnage de fantasy, pas un serial killer d'opérette. Mais je me suis rapproché le plus possible du véritable Petiot, et pour ça, on a des sources finalement très, 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 très utiles. Par exemple, on a entendu son ami de jeunesse, René Nézondé, tout à l'heure. Mmh. Nézondé connaissait très, très bien Petiot, il allait dîner régulièrement chez lui, etc. Et il nous parle dans son livre livre, parce qu'il a écrit un livre, un des premiers livres sortis sur Petiot en 1950, s'appelle « Petiot le possédé ». Ce titre offre d'ailleurs des clés sur la personnalité de Petiot. Et il nous présente un Petiot finalement plutôt rigolo, un bon vivant, et puis un grand lecteur de romans policiers, et au point qu'il y en avait partout dans la maison, et que aussi un fan de cinéma de gangsters, de films de gangsters américains, et que régulièrement, presque tous les soirs, il emmenait sa petite famille, femme, enfant et René Nézondé au cinéma. Et comme il était extrêmement pingre, il avait fait une fortune sur le dos de ses victimes, mais en même temps, il était extrêmement radin, et il faisait payer la place par son copain.
Et alors justement, le mobile de ces crimes, pour vous, c'est l'argent et rien que l'argent ?
Je pense que c'est principalement ça. À la base de sa personnalité, évidemment, il y a quelqu'un de totalement amoral et puis de traumatisme d'enfance et tout. Mais c'est quand même quelqu'un qui, assez rapidement, a pris l'habitude d'escroquer, de manipuler. Pour lui, il n'y a pas de petits bénéfices. Ça peut être faire des gains pour l'électricité de sa maison en truquant les branchements. Et en même temps, insister énormément sur le fait que c'est les Juifs, en particulier, qui sont ses principales victimes, qu'ils emmènent le plus d'argent possible dans les valises. Il leur disait « Oui, la vie va vous coûter cher, vous savez, à Buenos Aires, c'est emmenez tout, réalisez vos valeurs, vos actions, vendez tout, mettez tout dans les valises, venez avec, on s'en occupe du transport, etc. »
C'est là qu'il prend un autre visage. Quand je disais l'histoire change de ton à partir du moment où il s'en prend à des Juifs. On est dans une autre dimension, là, chez Petiot.
Oui, tout à fait. Et c'est une des raisons pour lesquelles je voulais aussi utiliser ce personnage, c'est qu'il est très, très représentatif, finalement, de la spoliation des Juifs. C'est-à-dire que vous avez, sous l'occupation, une catégorie sociale relativement minoritaire d'ailleurs, qui se retrouve tout à coup privé de tout, de droit de travailler, etc. Beaucoup, beaucoup d'étrangers qui affluent. D'ailleurs, il s'est surtout attaqué à des Juifs qui venaient d'Allemagne. Et ces gens-là, finalement, tout le monde en profite. C'est un peu comme de nos jours les passeurs qui profitent des gens qui essayent de gagner l'Europe. C'est-à-dire que tous ces gens vont faire de l'argent. Et les Juifs, évidemment, on les a toujours payés plus parce qu'ils étaient ils sont riches, ils ont de l'argent caché, c'est des Juifs. Donc, ils étaient la proie idéale. Et tout à coup, tous ces gens, finalement, parce qu'il n'y a pas eu que Petiot lui-même, il y a eu tous les rabatteurs entre les Juifs et Petiot, il y a tous ces gens qui se sont pris de l'argent sur le dos des Juifs. Et finalement, j'ai trouvé que ce personnage et son action étaient très, très emblématiques, finalement, de toute la noirceur de la période de l'occupation.
France Inter. Affaires sensibles.
Romain Slocombe, sur la méthode, si je puis dire, la méthode Petiot, il y a une source de l'époque intéressante, un ancien de la Gestapo française qui a affirmé le connaître précisément et bien même. On sait ce qu'il a raconté.
Oui, alors c'est un journaliste qui utilisait comme pseudonyme Henri Sergue et qui a publié des livres dans les années 80 sur les truands français de l'occupation et principalement sur la fameuse carlingue de la rue Lauriston, qui est très très liée en fait à Petiot, même si les preuves manquent. Et lui, il disait que Petiot... Alors il y a une première chose, c'est comment est-ce que les gens étaient drogués par cette injection. Mais une fois qu'ils arrivaient dans ce fameux cagibi absolument terrifiant, cette pièce triangulaire, Petiot leur disait « Bon, bah, asseyez-vous sur vos valises, etc. Les passeurs ne vont pas tarder à venir, vous sortirez par la porte. » Là, les fameux battants dont parle le commissaire Massu, qui sont les battants de porte collés contre le mur. Et puis, il y a, donc disait toujours cet ancien truand de la carlingue que Sergue a interviewé en Amérique du Sud, il y avait un seau, il disait « Mes WC sont bouchés, désolé, vous ne pouvez pas les utiliser, mais si vous avez un besoin pressant, vous pouvez utiliser le seau. » Et dans ce seau, il y avait de l'acide sulfurique dilué dans de l'eau distillée. Et donc il disait « Oui, désinfectant », disait-il, forcément. Il sortait, et avant de sortir, parce qu'il faisait des allées-venues pour rassurer les gens, mais finalement il les enfermait dans ce cagibi, et il lâchait un petit sac de boulettes, en fait, de cyanure de potassium, ce qui déclenchait une réaction, en fait, qui produisait... du cyanure d'hydrogène, qui est en fait exactement la recette du fameux Zyklon B qui était que produisaient industriellement les nazis pour les chambres à gaz. Et donc, c'est ça qui tuait les gens, qui tuait ces malheureux, qui se réveillaient de cette injection pour succomber, en fait, à ça. Et Massu a un peu foiré son enquête. Il a pas voulu vraiment croire que c'était une chambre à gaz, alors pourtant, c'est
difficile
assez clair.
À croire. Hein,
voilà, voilà. Mais surtout, il a dit, mais c'est pas possible, parce qu'il y a un jour sous la porte, et donc l'air passe. Ouais. Voilà. Mais en fait, tout simplement, l'hôtel particulier était rempli de bric-à-brac, il y avait des tapis partout, donc il suffisait de rouler un tapis, de le pousser sous la porte.
Il y a eu des survivants.
Alors, il y a eu des gens qui ont eu la présence d'esprit de refuser de partir au dernier moment. Notamment un couple qui s'appelait Cadoret de l'Espingaine. La femme était médecin, elle s'est méfiée, elle était elle-même un peu psychiatre et tout. Elle a eu l'impression que Petiot était drogué au peyote, ce qui était vrai d'ailleurs, parce que c'était également ça, avec des injections de stupéfiants qu'il leur faisait pour justement qui renoncent un peu à toute volonté et qui se laissent enfermer, ces victimes. Et par contre, il y a eu un homme qui est passé par tout le processus et qui s'est évadé. Et c'est dans un livre extrêmement, qui est introuvable, qui s'appelle « Le cas du docteur Petiot », qui est publié en 1944 en Belgique, et dans lequel un certain Albert Massuy, l'auteur, raconte, publie le témoignage d'un juif qui s'appelle Raphaël K, et qui lui est entré a eu cette injection de peyote et qui s'est réveillé avec des visions hallucinatoires absolument épouvantables, avec une grande douleur à cause de l'overdose de peyote. Et par chance, en fait, la porte n'était pas bien fermée. Et il a réussi, alors qu'il était ligoté parce qu'il y avait des pitons de fer en haut des trois murs de la pièce triangulaire, il a réussi à donner des ruades, à se dégager. Et il est sorti et Petiot s'était absenté. Et par une fenêtre.
Il est allé se plaindre, il est allé voir la police, et ça a aidé la police à l'arrêter ou pas ?
Pas du tout, parce que c'était en mars 1944, la Gestapo était encore en Belgique, était encore en France, et ce jeune Raphaël K, qui n'a pas voulu donner son nom de famille, pouvait être arrêté, et donc il n'a pas donné son nom.
Romain Slocum-Sadorski chez le docteur Satan, l'affaire Petiot, comme vous ne l'avez jamais vu, c'est à lire, merci.
Merci beaucoup à vous.
Et Affaires Sensibles, aujourd'hui, le docteur Petiot, faux résistant et vrai tueur. Une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique, aujourd'hui, il y avait Vincent Dezière.
Affaires Sensibles est un podcast France Inter.